et bien bonjour. Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Hélène Bédard en studio avec ma très fidèle collaboratrice Francine Forget. Bon matin, madame.
Bonjour, Hélène. Vous avez remarqué, j'ai déménagé, je suis rendue à votre droite. Rien à voir avec ma position électorale, entre guillemets.
Ouf, je pensais qu'on allait tomber sur un sujet politique.
Non, pas du tout.
OK, moi, je reste centriste, alors. À la régie, Maurice Bolduc. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors voilà, nous allons donc aborder dans la première partie de l'émission les sujets suivants. Pour ma part, je vais vous parler de programmer sa mort, réflexion sur l'âge de la vieillesse et l'analphabétisme. Et vous, Francine?
Alors, je vais laisser la science pour aller du côté des émotions, voir un ami pleurer. Et une question qui est quand même d'ordre scientifique, existe-t-il vraiment un siège des émotions?
Oh, j'ai bien hâte à ça. Merci beaucoup. On vous revient dans un moment. Alors voilà, j'ai trouvé un texte très intéressant. C'est à l'émission Médium Large. C'est paru quand même au niveau de l'écrit. Catherine Perrin, qui s'appelle porte-parole de ce titre, qui est « Programmer sa mort pour contrôler sa sortie ». Et c'est écrit le 29 août 2018, donc c'est très récent. Pour ne pas subir les affres de l'hospitalisation en fin de vie, perdre sa dignité et être un fardeau pour autrui, Jacqueline Jeanquel, une Française de 74 ans, a choisi de mettre fin à ses jours par suicide assisté en Suisse, là où cette pratique est légale, et la date prévue est janvier 2020. Jacqueline Jeanquel fait valoir à Catherine Perrin qu'on ne devrait pas avoir à justifier sa décision pour des raisons médicales. J'ai l'air en pleine santé, mais je ne le suis pas, et personne ne l'est à mon âge, affirme Mme Jeanquel, qui avoue présenter des signes précurseurs de la démence ou de la maladie d'Alzheimer. Mme Jeanquel dit mener ce combat pour faire évoluer les lois françaises et européennes afin que les personnes hospitalisées et hébergées dans des centres et qui ne peuvent se rendre en Suisse peuvent, elles aussi, mettre fin à leur jour comme elles l'entendent et surtout au moment où ça leur convient. Elle croit accomplir son devoir envers ses enfants. Ça fait des années qu'on parle avec eux. Ils savent, c'est ma philosophie de vie. Ils savent que je me sens responsable de les avoir mis au monde. Avoir un parent à charge, surtout un parent qui devient dément, je ne veux quand même pas leur faire ça. Ce n'est pas sympathique. Évidemment, ils seront tristes, mais ils sont préparés. Ils préfèrent ça à me voir dans un état où je n'aimerais pas me retrouver. J'ai vu mon père mourir de la maladie d'Alzheimer. Je peux vous assurer que c'est une mort horrible. Louise Atraverse, qui a 78 ans, croit que son expérience représente l'autre côté du vieillissement. Elle dit que ce sont les plus belles années de sa vie. J'aime et j'arrive dans ma vieillesse avec tout à coup une simplicité, un détachement que j'ai souhaité toute ma vie. Je suis une actrice, je suis émotive, je m'engage, je m'enflamme. Tout cet aspect de moi qui avait de grandes qualités, mais avait aussi des défauts, et qui m'ont énervé au bout de compte, en entrant dans ma 70e année, je me suis intéressée à vivre ce que la vie me présentait. Oui, je me sens beaucoup mieux, j'aime beaucoup plus et j'aime mieux que jamais. J'ai enfin le temps de faire les choses, j'aime, mais il y a moins de pression, je ne sens plus dans la performance. Lucie Desaunier craint que les tenants du suicide assisté ne présument du fardeau qu'une personne malade représente. Cette interdépendance est un élément fondamental du fait qu'on est des humains. Ça m'apparaît un peu balayé au profit du fantasme, de se fixer sur une norme. Il y a ce rêve, ce mythe, peut-être même cette illusion de mourir en pensant qu'on aura le teint rose. Le spécialiste du deuil remet en question la vigueur avec laquelle les gens veulent réaliser un ultime souhait en ignorant parfois les conséquences. On s'imagine qu'en contrôlant la réalité de façon très pragmatique, on va avoir prise sur notre angoisse. Ce que j'ai constaté, c'est que cette volonté crée d'autres contraintes. C'était un texte, pour débuter l'émission, peut-être un peu lourd, mais il faut vraiment qu'on en parle. « Programmer sa mort pour contrôler sa sortie », Catherine Perrin, paru le mercredi 29 août.
Mmh.
Alors, nous voici de retour après une belle mélodie de Miles Davis, qu'on me dit qu'il vient de décéder aujourd'hui, c'est bien ça?
Nous allons...
En 91.
Il vient de décéder aujourd'hui, en 91.
En 91, oh, oui. Oui, mais c'est ça, c'est son anniversaire de décès. Je m'excuse, je me suis très mal exprimé. Nous allons poursuivre avec Francine Forget.
J'enchaîne avec une chronique d'Émilie Dubreuil dans « Sale temps pour sortir », c'est dans le Voir 2018, « Voir un ami pleurer ». La petite fille souriante, 6 ou 7 ans, s'est arrêtée devant moi avec sa crème glacée. Sa mère discutait avec une amie et avec mon regard posé dans le vague, je devais lui sembler une interlocutrice idéale. « C'est quoi, toi, ta chanson préférée? » Sans réfléchir, j'ai répondu « Voir un ami pleurer ». « Mais c'est pas une chanson, ça », m'a répondu la petite, en fronçant légèrement les sourcils, avec le sérieux des enfants de cet âge-là. « Alors, toi, c'est quoi ta chanson préférée? »« On va s'aimer », m'a-t-elle dit. J'ai sursauté et fredonné la chanson de Martine Sinclair. Non, ce n'était pas de celle-là qu'elle parlait. Elle a chanté celle à laquelle elle faisait référence, puis s'est arrêtée net. « Tu as un ami qui pleure? Il est où? »« Il est pas loin, dans ma tête. » Dans ta tête? La maman est arrivée, elle a récupéré Lily et sa crème glacée, elles sont parties sur le trottoir. Tout d'un coup, j'ai eu envie de faire revenir la petite fille et de lui chanter cette chanson de Brel, lui expliquer à quel point ce long poème dit à peu près tout de ce qu'il y a à dire sur quelques accords en mineur. Mais voir un ami pleurer, bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider, et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés, la vérité qui nous évite, mais voir un ami pleurer. La petite fille avait disparu depuis longtemps de mon champ de vision, et je venais de lui faire cette petite leçon imaginaire en déclinant par cœur ces strophes que j'ai fini par assimiler à force d'écouter en boucle ce texte, adolescente, sur la vieille table tournante de mes parents. Cette chanson me bouleversait à un âge tendre. Spontanément, quand la petite fille m'a demandé ça, « C'est quoi ta chanson préférée? », mon inconscient s'est mise en mineur. Sans doute un peu parce que je m'étais arrêtée au café de retour de chez elle. J'avais pris une petite heure de ma vie. Je lui avais dit que je serais là à 16h. J'ai déboulé dans son salon en retard, 16h30. « Excuse-moi, il y avait du trafic. » Alors qu'elle me racontait sa rage de dents venue s'ajouter aux douleurs engendrées par son genou foutu, mon téléphone vibrait de messages vers lesquels mon regard se détournait par réflexe. Elle m'a dit, sans emphase, « J'en ai assez de souffrir, c'est trop dur, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai plus la force. » Elle s'est mise à pleurer doucement. De grosses larmes perceptibles sur ses joues. Je lui ai tendu la main discrètement. J'ai fermé le téléphone. Et je l'ai regardé pleurer en silence. Car il n'y a rien, surtout rien à dire ni rien à faire quand on voit un ami pleurer. Il faut se taire et s'oublier. Je lui ai tendu un mouchoir. Elle se ressaisit. Je lui ai dit des conneries du genre « Un jour à la fois, ça va s'arranger. Tu vas t'en sortir, ça va aller mieux demain. » Elle a souri pour me rassurer. J'ai fait semblant d'y croire et je suis partie. Plus tard, assise au café, les yeux dans le vague, quand la petite fille m'a questionnée, je l'entendais pleurer dans ma tête, persuadée qu'elle avait attendu mon départ pour pleurer vraiment. Car le plus souvent, même si on expose à peu près tous les petits événements de nos vies sur les réseaux sociaux, on se cache pour pleurer. Alors, un merveilleux texte que j'ai un peu résumé malheureusement, « Voir un ami pleurer », c'est Émilie Dubreuil dans Le Voir d'octobre 2018.
Merci beaucoup, Francine.
C'est presque de la poésie, hein?
Merci beaucoup.
Ah oui, c'est très beau, très, très beau.
Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre, il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs. Mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites. Et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête. Étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles. Et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes. Mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées. Ses enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider, et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyer. La vérité qui nous évite. Mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres. Ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné. Mais voir un ami pleurer.
Stéphane Escher, voir un ami pleurer.
Beaucoup d'émotions dans nos têtes et dans nos cœurs avec une mélodie semblable. Merci beaucoup, Maurice. Alors voilà, je vais tenter d'enchaîner avec un sujet qui est tout aussi touchant. C'est l'âgisme et la vieillesse. Voilà, c'est un texte que j'ai retrouvé de Jérôme Pélissier. C'est en mai 2018 et c'est une réflexion, c'est ça. Ça s'appelle comme ça, Réflexion sur l'âge de la vieillesse. C'est un site Internet. Le vieillissement est très souvent dépeint au mieux comme une maladie, au pire comme un échec, mais toujours comme une catastrophe. La vieillesse est censée commencer dès les premières rides, traitée d'un produit anti-âge, dès les premiers signes, évidemment, dès qu'ils apparaissent, soit dès la trentaine. Cette incitation permanente à paraître jeune, rester jeune, faire jeune, être jeune dans sa tête, conduit à rejeter dans les limbes de la vieillesse honteuse celles et ceux qui assument ou ne peuvent cacher les stigmates de l'âge. La quarantaine vous fait souvent percevoir au sein du monde du travail comme un vieux, aussitôt suspecté d'être moins savant, moins performant. Passé un certain âge, les gens de votre génération disparaissent des publicités, des pages de magazines et même de la télévision. Ou, sauf exception caricaturale, par exemple publicité pour un contrat pour vos obsèques, plus d'images publiques des vieilles personnes. Onni, où la sexualité des vieilles personnes est à peine abordée, voire même interdite. Où n'apparaissent dans une majorité de médias que deux figures, le senior puis le vieux dépendant. Le seigneur qui consomme et fait jeûne et qui reçoit dans sa boîte roulette des incitations aux voyages aventureux, aux grands vins, aux chaussures de sport, aux écrans plats. Puis soudain, la personne âgée, forcément dépendante et coûteuse, qui reçoit des publicités pour des assurances dépendantes, des baignoires à porte et des montres escaliers. Ou lorsqu'une vieille personne non dépendante et active apparaît dans les médias, elle est alors décrite non comme une vieille personne, mais comme une personne encore jeune. Bref, quand un vieux n'est pas à l'image de sa caricature agisse, c'est en fait qu'il ne s'agit pas d'un vieux. J'espère que vous me suivez. Qu'en est-il de vieillir dans une société agisse qui ne cesse de pointer le vieillissement et la vieillesse comme des échecs? Qu'en est-il du coup de vivre des phrases entières de son développement, de son vieillissement, en luttant contre ou en le niant? À partir de 60 ans, l'essentiel est de rajeunir tous les jours et de montrer ensuite de grands adolescents des postes 68 heures aux cheveux à peine blanchis, aussi peu vieux que pas vraiment jeune. Saint-Jean à la jeunesse avec une fausse pétillance, pathétique et pathétiquement symptomatique. Nous n'avons pas encore mesuré la profondeur des dégâts sociaux et psychiques en particulier que provoque pour des individus la certitude de que leur vieillesse ne peut qu'être qu'un déclin progressif et que les vieux citoyens grèvent les conditions d'existence des autres. En attendant, nous ne pouvons que constater ce sentiment de culpabilité de vivre dont nous parlent ces vieilles personnes qui disent ceci: « Je préfère mourir que d'être une charge. » C'est une belle preuve de civilisation que de provoquer chez certains citoyens le désir de mourir pour soulager les autres. Alors, c'était un texte de Jérôme Pélissier sur la réflexion sur l'âgisme et la vieillesse. Nous revoici en studio et Francine Forget, cette fois-ci, va nous emporter vers...
Les émotions, toujours. Mais disons de façon moins émotive, hein, moins émouvante. Existe-t-il vraiment un siège des émotions? Alors, c'est une question très scientifique, je vous dirais, et très cérébrale. C'est dans Science et Vie de l'été 2018. Peur, colère, joie, dégoût, tristesse, mais aussi jalousie, envie, fierté, honte ou frustration. Nos cerveaux sont câblés pour ressentir une large palette émotionnelle. Les neuroscientifiques, depuis une vingtaine d'années, pensaient d'ailleurs en avoir trouvé la part tangible, matérielle, inscrite dans notre organisation cérébrale. À force de chercher dans les images produites par les scanners ce qui nous remplit de joie ou nous fait piquer une colère, ils en avaient conclu que certaines zones sont essentielles pour activer telle ou telle émotion. Par exemple, l'amygdale, alors évidemment je parle de celle qui est cérébrale et non pas celle du pharynx, cette protubérance en forme d'amande qui est nichée au cœur du cerveau pour la peur, ou l'insula, repli profond du cortex, pour le dégoût. Accréditant ainsi l'idée d'un cerveau des émotions, menant une vie parallèle au cerveau rationnel, opérant, lui, dans le cortex, cette partie la plus récente dans l'histoire évolutive de l'organe de l'esprit. Sauf que cette répartition des rôles n'a finalement pas lieu d'être. Une équipe américaine en a apporté la preuve. Nos émotions sont le fruit d'une activité cérébrale très étendue, allant des profondeurs du cerveau à sa surface. Balayer l'idée d'un cerveau primitif concentrant les émotions versus un autre tout entier dévolu à la raison. Selon les vues traditionnelles, un état émotionnel résulte d'une recette dont les ingrédients sont les émotions elles-mêmes. Or, pour filer cette métaphore culinaire, explique Thor Wager, qui est professeur en neurosciences à l'Université du Colorado, à la tête de l'équipe américaine, chaque émotion correspondrait en fait à une recette composée à partir d'ingrédients non spécifiques que sont l'ensemble des processus cognitifs, affectifs, perceptifs et moteurs de base. Chez les spécialistes des émotions, ce renversement de perspective était envisagé, mais il n'avait jamais été appuyé avec autant de force. Thor Wager et ses collègues ont exhumé 148 études d'imagerie cérébrale des émotions publiées entre 1993 et 2011. Il n'y a pas une zone de la peur, une autre de la joie, de la tristesse, non. La palette des émotions résulte des différences dans la façon dont s'activent et interagissent un ensemble de réseaux cérébraux. Ainsi, l'amygdale, souvent considérée comme le centre de la peur, montre en réalité des activations significatives pour chacune des 5 émotions testées. Elle s'active même avec une égale intensité dans la peur et la colère. La colère, elle, correspond bien à un profil d'activité unique dans l'hippocampe, habituellement associé à la mémoire et à la navigation spatiale. L'analyse a par ailleurs mis en évidence des liens inattendus. Ainsi, joie et dégoût présentent une signature très semblable au niveau du cortex. Le travail ne fait que commencer. Maintenant que l'on sait que les émotions résultent de l'activation de zones non spécifiques, reste à comprendre, d'une part, pourquoi telle configuration d'activation cérébrale engendre la peur ou la joie. D'autre part, ce qui fait la spécificité des émotions par rapport à d'autres états mentaux. Le vrai cerveau des émotions est là. Son exploration peut commencer. Science y vit. L'émotion, alors y a-t-il un siège dans notre cerveau? C'est dans la publication de l'été 2018.
Excellent.
Jour doré par Joël Saint-Pierre.
Oui, merci beaucoup Maurice. Alors voilà, Hélène Bédard au micro. Je vais vous parler de... C'est une petite nouvelle brève que j'ai trouvée dans la revue Virage. Et ça s'appelle Trottibus. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais je vais vous en parler. C'est les plaisirs du bénévolat avec Trottibus. Si vous pensez faire du bénévolat cet automne, voici beau témoignage de Mme Gagné, membre de la FADOC, région de Montréal, qui s'implique auprès des enfants de l'école Saint-Émile qui empruntent le service de Trottibus. Qu'en est-il? C'est un autobus pédestre qui permet à des élèves du primaire de se rendre le matin de la maison à l'école. Ce concept a été mis sur pied par la Société canadienne du cancer et prévoit un encadrement sécuritaire par des accompagnateurs bénévoles, des trajets prédéterminés et des arrêts planifiés. Cette activité offre des avantages pour toute la communauté. Les enfants qui marchent pour aller à l'école développent de saines habitudes de vie et ont une meilleure concentration en classe. De l'autre côté, les bénévoles accompagnateurs développent un sentiment d'appartenance au quartier, élargissent leur réseau social et bougent aussi. Les quartiers qui ont la chance d'avoir des trottibus sont plus verts car les résidents y utilisent davantage la marche comme moyen de déplacement. Les liens que je tisse avec les enfants sont formidables. Tout en marchant, ils me racontent leur journée. Alors, les écoles sur toute l'île de Montréal sont à la recherche d'accompagnateurs bénévoles pour déployer ce service Trottibus. Si vous n'êtes pas certain d'être à l'aise, vous pouvez débuter par un essai de quelques jours. Une formation en sécurité routière est offerte et la Société canadienne du cancer est à la recherche de bénévoles marcheurs, 1 à 5 matins par semaine, et de bénévoles pour le comité organisateur de cette promotion. Alors voilà, si vous voulez accompagner les enfants, allez vers Trottibus. C'est cute, hein? Je vais laisser la parole à Francine.
Alors Hélène, moi je vais vous amener dans le silence et dans le bruit. Alors je vais commencer par le bruit. Quel est le bruit maximal possible? Science et vie, été 2018. Le son le plus fort qui sera jamais possible de générer sur Terre est de 194 décibels. Pour comprendre une telle précision, il faut savoir qu'un bruit qui se propage dans l'air correspond à une variation de la pression atmosphérique, laquelle se trouve tantôt augmentée, tantôt abaissée, à l'image d'une courbe. Logiquement, plus cette vague acoustique a de l'ampleur, plus le bruit est intense. Or, il n'est pas possible d'abaisser la pression en dessous de zéro. Ce cas correspondrait à une absence totale de particules. L'ampleur de cette vague est donc limitée par la valeur de la pression atmosphérique moyenne autour de laquelle l'onde fluctue. Ainsi, le bruit maximal sur Terre est celui qui fait varier la pression entre 0 et 2 fois la pression atmosphérique, ce qui correspond à un bruit de 194 décibels. Une personne, normalement, produit une pression acoustique 10 millions de fois inférieure. Reste que 194 décibels sont un maximum théorique. Le son le plus fort jamais obtenu à ce jour est celui d'une fusée au décollage entre 160 et 180 décibels. Voilà pour ce qui en est du bruit. Tantôt, peut-être, parlera-t-on du silence.
Voilà, pour le moment, je vous demande de rester avec nous pour la suite de l'émission Les Voix de service. Après cette pause... Eh bien voilà, nous voici de retour à l'émission Les Voix de service magazine. Hélène Bédard au micro, Francine Forget avec moi dans le studio. Moi, de mon côté, je vais vous entretenir de l'analphabétisme, dont je n'ai pas eu le temps de vous parler en première partie. Et je vais vous dire aussi, jaser plutôt des mères prises en sandwich. Francine, vous allez nous jaser de...
Une entrevue d'abord avec Élisabeth Isaac, Le vent tourne, qui est paru dans Le Voir. Mais je vais commencer la deuxième partie avec l'intelligence artificielle qui est au service de la prévention des famines. Alors, cette semaine, dans la presse.ca, le 23 septembre, il y a un article de l'agence France Presse qui a été repris, un article que j'ai trouvé intéressant parce que souvent, quand on parle d'intelligence artificielle et tout ça, on voit que le mauvais côté. Alors, c'était un aspect, je dirais, beaucoup plus positif. Microsoft, Amazon et Google ont décidé de s'associer aux organisations internationales pour prévenir le risque des famines dans le monde en utilisant l'intelligence artificielle selon une initiative dévoilée dernièrement. Plutôt que de s'attaquer à la famine une fois qu'elle a fait de nombreuses victimes, les géants des hautes technologies utiliseront le pouvoir des données afin d'analyser, anticiper les situations à risque et passer à l'action avant qu'elles ne dégénèrent en une véritable crise humanitaire, expliquent la Banque mondiale et les Nations unies dans un communiqué. En 2017, plus de 20 millions de personnes du nord-est du Nigeria, de la Somalie, du Soudan du Sud et du Yémen ont été confrontées soit à la famine, soit à des situations de quasi-famine en raison d'une série de facteurs combinés, conflits, pauvreté, désastres climatiques et prises alimentaires. En outre, 124 millions de personnes vivent actuellement dans des situations d'insécurité alimentaire qui nécessitent pour leur survie une aide humanitaire d'urgence, détaillent ces organisations. Le fait que 2 millions, que 10 millions de gens, dont de nombreux enfants, souffrent encore de malnutrition sévère et de famine au 21e siècle, est une tragédie mondiale, a souligné le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim. Le mécanisme d'action contre la famine, FAM, selon l'acronyme anglais, fournira les premiers signaux d'alerte identifiant les crises alimentaires qui pourraient muer en véritable famine. Cela permettra de déclencher des programmes de financement destinés à une intervention rapide. Si nous pouvons prédire quand et où les famines vont se produire, nous pourrons sauver des vies en répondant plus tôt et plus efficacement, a réagi Brad Smith, le président de Microsoft. Google, Microsoft et Amazon Web Services, ainsi que d'autres entreprises de technologie, vont fournir leur expertise pour développer une série de modèles analytiques baptisés Artemis, qui utilisent l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour faire des prévisions en temps réel sur l'aggravation des crises alimentaires. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont très prometteurs pour détecter des pénuries alimentaires liées aux défaillances de culture, à la sécheresse, aux désastres naturels et aux conflits, a expliqué M. Smith. L'apprentissage automatique est une méthode utilisée en intelligence artificielle qui, à partir d'algorithmes, examine un ensemble de données pour analyser finement de nouvelles situations. Le FAM sera initialement lancé avec un petit groupe de pays vulnérables avant d'être étendu au monde entier. Les dirigeants des 10 projets se rassembleront le 13 octobre prochain lors des réunions de la Banque mondiale et du FMI en Indonésie pour discuter de sa mise en œuvre. Alors voilà une initiative, l'intelligence artificielle au service de la prévention des famines, dont on a parlé dans l'Agence France-Presse, rapportée dans la presse.ca le 23 septembre 2018.
Alors voilà, de mon côté, je vais vous parler de l'analphabétisme. C'est un texte de Chloé Mario, paru dans la presse très récemment, 22 septembre. Ne pas pouvoir lire une ordonnance médicale, le plan du métro, ses factures, un menu au restaurant, ne pas pouvoir écrire son CV, un courriel, ça c'est le quotidien des analphabètes qui est semé d'obstacles. Ils dépendent de leur entourage, mais bataille pour mener une vie normale. Apprendre à lire à 80 ans. Sur son calepin, Jenad Douar s'applique à écrire sa signature. Il lui aura fallu beaucoup de volonté et user plusieurs calepins pour en arriver là, tout un symbole, car auparavant, cette femme affable et fringante de 80 ans n'aurait pu faire qu'un gribouillage. Si elle y arrive aujourd'hui, c'est grâce au cours d'alphabétisation qu'elle suit depuis 2 ans à l'Atelier des lettres. C'est un groupe d'alphabétisation populaire de Montréal. Jenna a un rêve, lire un jour une page de journal. Il y a quelques années, Judith Morrison, 55 ans, ne pensait sûrement pas pouvoir le faire un jour. Elle suit des cours à l'Ardoise, un groupe populaire à Sorel-Tracy d'alphabétisation. Elle suit donc ses cours depuis 6 ans. Elle avait des bases en écriture, en lecture, mais n'arrivait toujours pas à comprendre le sens d'un texte. Tout au long de sa vie professionnelle, elle a usé de subterfuges pour cacher ses difficultés et ne pas subir les préjugés. Jeune, elle gardait les enfants. Quand ils voulaient que je leur lise une histoire, imaginez, c'était Cendrillon ou les 3 petits cochons, parce qu'elle les connaissait par cœur. Quand je ne connaissais pas, j'inventais avec les images. Elle a ensuite travaillé en tant que femme de ménage à l'hôpital et c'est sa tante qui remplissait les rapports à sa place. Plus tard, quand elle a trouvé un emploi dans un centre pour s'occuper d'adultes handicapés, c'est son frère qui y travaillait également qui se chargeait de faire les rapports pour elle. Son quotidien a été semé d'obstacles. Je ne comprends pas les plans ni les horaires du bus et du métro. Au restaurant, je ne comprenais pas le menu. Au cinéma, si mes amis me demandaient de choisir un film, je prenais au hasard car je ne pouvais pas lire la description. Et je n'allais pas voir de films en anglais car je ne pouvais pas lire les sous-titres. Quand elle devait écrire, elle faisait mine de ne pas avoir de crayon, demandait à reporter le formulaire plus tard. Elle n'est pas allée à des entretiens d'embauche où elle savait qu'il lui faudrait écrire. Elle a mal pris ses médicaments faute de pouvoir lire la posologie. Et lorsqu'elle avait vraiment besoin d'écrire, elle écrivait selon les sons, mais parfois, elle n'était pas capable de relire. Malheureusement, les choses ne s'améliorent pas. En 2003, on parlait de 800 000 personnes âgées de 16 à 65 ans ayant de grandes difficultés de lecture. Aujourd'hui, selon les plus récentes statistiques, c'est effarant ce que je vais lire, ce sont plus de 1 million d'adultes qui se trouvent dans la même situation. Ça ne touche pas seulement les personnes directement concernées, ça a une incidence sur leurs familles, leurs enfants, sur l'ensemble de la collectivité. Il faut donc se donner une stratégie nationale qui repose sur une vision globale du problème et qui s'attaque à la fois à ses causes et à ses conséquences. Lutter contre l'analphabétisme et lutter contre la pauvreté sont deux luttes indissociables. Le milieu scolaire doit avoir les ressources pour accompagner tous les élèves, sans exception, vers la réussite. Il faut également s'assurer que les adultes puissent maintenir leurs acquis et les développer. Ça passe, entre autres, par l'accès à de la formation tout au long de la vie. Un texte qui en dit long, on l'a intitulé aussi « À la merci des mots ». Chloé Mario, dans la presse, 22 septembre 2018.
Ce matin, tu siffles en hommage un refrain, encore un peu sous de la veille. On sait rien ne sera plus pareil. Tu nages dans l'eau de la piscine, défie de motricité fine. Tu sembles incarner le divin, comme si David Hockney t'avait peint. Parler toute la nuit avec des phrases, des assorties. J'ai encore tant de choses à te dire. Peut-être aurais-je mieux fait de te fuir. J'aurais voulu cacher mes larmes. Vive la vie, vive les drames. Sais-tu à quel point tu me plais? J'espère qu'on ne se lâchera jamais. Est-ce la chaleur qui m'assomme, ou l'alcool d'hier qui résonne? Devant toi je me sens tout petit, j'ai envie d'avaler la vie. Tu ressembles au prince charmant, dis-moi existes-tu vraiment? Je sais on vient de se rencontrer, accepterais-tu de...
Pierre Lapointe vient de nous chanter « Mon prince charmant ».
Merci beaucoup Maurice, merci de cette belle pause musicale et on continue nos textes avec Francine Forget.
Oui, je vous rapporte une entrevue d'Olivier Boisvert-Magnan dans Le Voir d'octobre 2018, excusez-moi, Le Vent tourne. C'est une entrevue avec Elisabeth Isaac après une longue dépression. Cette auteure, compositrice, interprète... étale le fruit de son introspection sur The Ballad of the Runaway Girl, un troisième album solo à la facture folk brute. Les cinq dernières années ont été mouvementées pour Elisabeth Isaac. Un moment euphorique, l'accouchement d'un deuxième enfant, s'est rapidement transformé en dépression postpartum. La chanteuse Inouk venait alors de frapper un mur. La vie a basculé au moment où ça aurait pas dû. J'avais une maison, un chum, deux enfants, tout allait bien. Mais curieusement, j'ai commencé à me poser des questions. Maintenant que j'avais trouvé mon nid et ma famille, qu'est-ce qui m'attendait? Comment on fait pour vivre normalement? J'ai tellement fui dans ma vie que là, la stabilité me faisait peur, confie l'artiste de 41 ans. Quand tu es une mère de famille et que tu vis des choses aussi profondes et lourdes que ça, tu te dis que c'est impossible, que tu peux pas, que tu dois toujours bien aller. Proactive malgré tout, Elisabeth a alors entamé une longue et exigeante introspection. Adoptée à la naissance par une famille voisine de son village nordique, Saluit, l'artiste a compris que ce déracinement initial avait eu un impact sur sa personnalité, à l'instar de celui qui l'a poussée à venir s'installer à Montréal au début de sa vingtaine. De là le nom de l'album, qui fait écho à cette fuite permanente. J'ai réalisé que j'ai constamment essayé de survivre dans un environnement qui n'était pas le mien. Quand j'étais petite, je voulais plaire, m'adapter à tout le monde, un peu comme un réflexe de survie. Au plus bas, la chanteuse a composé Ikangunga, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, touchante chanson qui, malgré son contexte de création difficile, a donné le ton à l'album. Je pleurais devant le sapin de Noël mort et j'ai pris ma guitare. Je faisais juste pleurer et m'excuser. C'est là que j'ai senti que j'avais besoin d'aide. Dixit Elisabeth. Cette rédemption a pris son élan dans le Nord québécois. Au lieu d'y aller seulement une fois par année, comme elle le faisait en moyenne depuis son exil, Elisabeth a accepté toutes les offres de séjour que ses proches de Saluit lui ont proposées. C'est vraiment ça qui m'a sauvée, car je m'ennuyais profondément du territoire, de l'horizon, du rythme du Nord. Ressourcée, Elisabeth a donné l'impulsion nécessaire à ses chansons en faisant appel à des gens, guitaristes, chanteurs, compositeurs, qui, entre autres, avaient fait leur marque avec Patrick Watson. Je savais qu'il y avait là une sensibilité pour le blues et le folk, et c'est vraiment là que je voulais aller. Mon deuxième album était très propre, très pop, et là, mon instinct me disait d'aller ailleurs, comme si le vent tournait et qu'un autre cycle commençait. Marqué par une complicité musicale vivifiante, The Ballad of the Runaway Girl n'est donc pas l'album morne qu'il aurait pu l'être. Oui, il y a un peu de darkness, mais il y a surtout un équilibre. C'est pas un voyage vers Walt Disney ni vers l'enfer. C'est plus une route avec de la gravelle et parfois avec un super beau coucher de soleil, conclut Elisabeth Isaac. Alors, cette entrevue a été réalisée par Olivier Boisvert-Magnan dans Le Voir d'octobre 2018. Et j'avais le goût de vous en parler parce que je trouve que c'est une femme extraordinaire. Et en plus, qu'elle raconte aussi simplement son cheminement qui a été difficile pour en faire profiter d'autres. Je trouve que c'est d'une très, très belle générosité.
Merci beaucoup à toi de nous l'avoir mis à notre connaissance. Un grand merci. Alors, je vais poursuivre un peu dans la même veine que Francine Forget. Je vais vous parler des mères prises en sandwich entre leurs enfants à élever et leurs parents qui vieillissent. Culpabilité avec un grand ou un petit C, ce mot fait partie du quotidien des mères sandwich. Si certains s'en veulent de délaisser leur enfant pour s'occuper de leurs parents malades, d'autres se sentent coupables de ne pas en faire assez pour accompagner ceux qui les ont élevés. Mais toutes expérimentent à divers degrés la lourdeur, la charge émotive, l'impuissance engendrée par le déclin de leurs parents. C'est un texte de Julie Lemieux, paru dans Châtelaine, la revue d'octobre 2018. Cette aide, 2 ans, c'est le temps que ça prend pour se reconnaître comme proche aidant. Au début, ça paraît normal de soigner quelqu'un qui nous est cher. Après un certain temps, ce ne l'est plus. Bien souvent, les proches aidants s'oublient et négligent d'aller chercher des services pour eux-mêmes, explique Mélanie Perroux du Regroupement des aidants naturels du Québec. Il existe pourtant des organismes dans toutes les régions du Québec qui peuvent les guider vers différentes ressources médicales et communautaires. Parfois, le simple fait d'échanger avec des personnes qui vivent la même réalité que soi allège le fardeau et donne un peu d'espoir et d'énergie pour continuer. Mais encore faut-il savoir se reconnaître et oser exprimer ses émotions. Les femmes sont-elles plus enclines que les hommes à s'occuper de leurs parents malades?
On pourrait croire que oui, mais il existe une quasi-parité de ce côté au Québec. C'est plutôt dans la nature des tâches et le nombre d'heures qui y sont consacrées que l'on remarque des différences. Les hommes se tournent davantage vers des corvées plus légères et moins longues, comme l'accompagnement dans les déplacements. Les femmes, elles, s'investissent dans les soins corporels, le ménage, les visites médicales, les occupations qui exigent plus de temps et peuvent contribuer à alimenter la fatigue lorsque les enfants les attendent ensuite à la maison. La loi sur les normes du travail prévoit que les proches aidants peuvent s'absenter de leur travail pendant 10 jours sans rémunération. Mais c'est bien insuffisant. Le regroupement réclame 15 jours avec salaire et la possibilité de fractionner ces journées en demi-journées ou même en heures. On doit leur permettre d'arriver plus tard et de partir plus tôt, de leur offrir une flexibilité avec le télétravail notamment. D'où l'importance de bien s'entourer et de briser l'isolement. Il faut apprendre à se pardonner et pardonner ses faiblesses, à refuser le sentiment de culpabilité. Les proches aidants se sentent souvent coupables de s'occuper de leur enfant au lieu d'être avec le malade. Et un cercle vicieux peut mener à la fatigue extrême et au découragement. Un aidant sur deux représenterait d'ailleurs des signes de dépression. Mais tout n'est pas noir dans le portrait des mères sandwich. Il y a aussi de la lumière, de la beauté, de la satisfaction dans le geste quotidien d'être présent pour l'autre. Même si l'expérience a été difficile, Chantal et Caroline affirment n'avoir aucun regret et se disent fiers d'avoir réussi à accompagner leur père jusqu'au bout, tout en prenant soin de leur famille. Ça m'a donné le goût de retourner aux études. Chantal renchérit, c'est valorisant, j'y ai retrouvé mon bonheur. Mon père est mort sereinement dans mes bras, j'ai donné tout ce que j'ai pu, et ça, ça m'a beaucoup fait grandir comme être humain. Un texte bien touchant par Julie Lemieux, paru dans la revue Châtelaine en octobre 2018. Des mères prises en sandwich entre leur enfant élevé et leurs parents qui vieillissent.
Thank you.
Dumas, une journée parfaite.
Comme aujourd'hui, Maurice, comme aujourd'hui. Merci. Francine Forget va poursuivre avec nous.
Oui, bien, je vous ai dit tantôt qu'on était pour parler du silence. Alors, peut-il exister sur Terre un silence absolu? Bonne question, hein? Inutile de chercher dans la nature. Là où le silence est maximal sur Terre, c'est dans les chambres anéchoïques ou sourdes des laboratoires de recherche en acoustique américains de la NASA et Dorfield Labs, lequel détient le record du monde du silence, homologué par le livre des Guinness depuis 2005. Concrètement, le niveau de son résiduel, quand la chambre est vide, c'est-à-dire, atteint un peu plus de 9 décibels, soit 300 fois moins qu'une chambre normale, tapissée de matériaux poreux absorbants, de mousse de polymère et de fibres de verre. Ces chambres absorbent presque 100%, en fait 99,99% des sons. Elles sont normalement utilisées pour tester la résistance au silence des astronautes. Sachant qu'à partir de 45 minutes, la personne risque hallucination et évanouissement.
Oh.
Trop de silence! Et que la perte des indices perceptifs qui permettent l'équilibre oblige à se tenir dans un fauteuil au bout de 30 minutes. Deuxième question concernant le bruit et le silence, et je vais terminer avec ça. C'est beaucoup en lien avec notre émission aujourd'hui qui a porté sur les émotions de différentes manières. Alors, pourquoi certains sons donnent-ils le frisson? C'est toujours dans Science et Vie, l'édition d'été 2018. Parce qu'ils agissent sur nos émotions.
Tiens donc.
En 2012, des chercheurs anglais ont en effet montré que l'activité du cortex auditif varie selon la nature des sons. Plus ils sont jugés désagréables par l'amygdale, alors on parle toujours de la région cérébrale qui traite les émotions, plus leur perception augmente. Ils provoquent alors un frisson. Sont en cause les sons dont la fréquence varie entre 2000 et 5000 Hz, comme les cris d'un bébé. Cette réaction excessive de l'amygdale serait un réflexe de défense face à un bruit synonyme de danger pour le cerveau. Alors voilà ce que j'avais à vous partager avec vous, chers auditeurs, sur le bruit et le silence. Ça vient de Science et Vie 2018 de l'été.
Merci beaucoup. Eh bien, de mon côté, je vais vous parler d'une autre curiosité. C'est à Lille, en France, un homme de 88 ans a eu une opération au cœur sous hypnose sans aucune anesthésie. C'est un texte que j'ai trouvé, en fait, c'est une nouvelle que j'ai trouvée dans Ouest France. C'est un lien Internet que j'affectionne particulièrement. Un octogénaire, a subi la semaine dernière au CHU de Lille une intervention chirurgicale cardiaque pratiquée sous hypnose. Pendant l'opération, le patient a parlé et s'est même endormi. Il s'agit d'une première dans la région. L'hôpital va désormais former son personnel à cette méthode qui limite les effets secondaires et évidemment la convalescence. Le remplacement de sa valve aortique nécessitait une incision dans les artères fémorales et l'introduction de fils pour relier son cœur à d'autres organes. Une opération lourde qui se pratique habituellement sous une anesthésie générale ou une anesthésie très lourde. C'est une première dans la région. 80% des patients seraient réceptifs à l'hypnose qui limite les risques et accélère leur rétablissement. Quelquefois, ces patients sont plus sensibles aux effets secondaires des médicaments. Ces produits peuvent entraîner une confusion neurologique. Avec l'hypnose, le patient récupère immédiatement. On a un réel bénéfice. En pleine chirurgie, le patient a ainsi parlé de ses passions, de ses voyages. Il s'est même endormi de lui-même, comme je le disais précédemment. Et lui dit ceci, « On oublie totalement ce qui se passe. On est transféré ailleurs. » 2 jours après l'opération, il allait très bien. Le CHU de Lille a déjà planifié une autre intervention sous hypnose en octobre. L'hôpital entend former 4 autres infirmières à cette méthode afin de la démocratiser. Quand même étonnant, mais je voulais vous faire connaître cette nouvelle, cette curiosité et cet avancement aussi technologique. Je crois qu'on entend le thème musical, alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, chers auditeurs. Merci, Francine Forget, d'avoir été là.
J'ai une petite question pour vous.
Oui.
Savez-vous comment une plante peut percer l'asphalte? ma petite dernière de la journée.
Allez, en fait,
elle n'a pas cette force herculéenne. Hein? Les jeunes tiges qui sont incapables de développer des forces mécaniques d'une telle intensité. Alors, l'explication est simple. Il semble percer le macadam, mais en fait, elles sont arrivées là parce qu'elles ont trouvé dans le bitume une fissure par où transiter jusqu'à la surface.
La survie,
bien oui, extraordinaire.
Nous devons vous laisser là-dessus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine